et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous allons parler du seul vêtement universel, le jean. Il se vend un jean toutes les 73 secondes, c'est-à-dire 2 milliards 300 millions par an dans le monde entier. Au départ, c'était un simple vêtement de travail aux États-Unis. Il est maintenant porté par des ministres ou des grands patrons. C'est devenu le symbole d'une mode mondialisée aussi, avec ses revers, des processus de fabrication industrielle toxiques pour une toile finalement plus très résistante depuis qu'on y a introduit du stretch. Le jean épouse le corps et son époque. Nous allons retracer son histoire, sa sociologie et bien sûr, on attend vos témoignages. Racontez-nous comment vous portez votre jean et toutes les anecdotes qui vous sont arrivées en jean. Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On accueille notre invitée Sophie Lemayeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mode, enseignante en histoire de la mode à l'école du Louvre et vous avez co-publié « Histoire des modes et du vêtement » dirigé par Denis Brunat et Chloé Demey aux éditions textuelles 2018. Et bien sûr, dans cette grande histoire de la mode, le jean occupe une place importante et intéressante. On sera aussi en ligne avec Neila Ajaltouni, qui est déléguée générale du collectif « Éthique sur l'étiquette » qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde et pour un meilleur encadrement aussi de l'activité des multinationales, justement celles qui produisent des jeans. Vous avez d'ailleurs toutes les deux fait partie du comité scientifique autour de la préparation de l'exposition « Jeans ». Une exposition, hélas, virtuelle en ce moment à la Cité des sciences et de l'industrie, mais que l'on peut consulter sur Internet, sur le site Internet de la Cité des sciences, visite guidée.
Et on ne désespère pas qu'elle ouvre.
Non, bien sûr. Et en plus, l'exposition va ensuite voyager dans d'autres villes du monde. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous 33 7 64 45 51 41. Quand je dis les voisins, bien sûr les voisines aussi. Hein. Parlez-nous de vos jeans. Allez, on attend vos appels. 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alexis nous poste ce message à Nouakchott en Mauritanie. Il nous dit « Un jour, j'ai pris un taxi à la descente. Mon jean s'est accroché à un morceau de carrosserie. Le jean a résisté sans se déchirer. Si mon pantalon avait été dans un tissu lambda, il aurait été abîmé. » Et oui, c'est vrai que le jean est encore très résistant.
Assez résistant, mais souvent, quand on demande aux gens de raconter des anecdotes sur le jean, ils racontent le jour où leur jean s'est malgré tout craqué en public.
Et ils sont désespérés, parfois, parce qu'il va falloir le jeter. Abdoulaye est à Conakry, en Guinée. Le jean est un habit convoité en Guinée, grâce à sa résistance aux souffrances. Il est beaucoup porté par les ouvriers, les mécaniciens, les menuisiers, les plombiers, les hommes de métier en général. Ndak, au Sénégal, nous dit « Les jeans, c'est pratique, mais moi, je n'ose plus en mettre dans mon pays en raison d'intolérance vestimentaire. Dès que je quitte le Sénégal, j'en porte. » Et puis il y a aussi ce message posté sur WhatsApp de William qui est en région parisienne.
Bonjour les voisins et les voisines. Moi j'ai un jean que j'avais acheté depuis 2012 en Allemagne. Un délavé, vraiment un beau jean. Et quand j'étais en Afrique, chez moi au Congo-Brazzaville en 2019, j'ai partagé cet jean que j'avais ramené. Mais celui-là, tout le monde qui m'a demandé, je leur avais dit, vous ne l'aurez jamais, même le vendre ou quoi que ce soit. Ça, je ne pourrais jamais, jamais le partager, tellement que je l'aime, il est tellement beau, et je le mets à tous les sauces, on va dire. J'achète les autres, mais jusqu'aujourd'hui, lui, il reste toujours le premier, il restera toujours, je pense, le premier. Et j'avais travaillé dur pour acheter ce jean-là, parce que ça m'avait coûté quand même cher. Je mets tout, mais le jean, en tout cas, ça reste avec moi, dans mon cœur et dans mon esprit. Merci.
Ouais. Amoureux de son jean.
Oui,
William.
Ça c'est le graal de trouver le jean qui vous va bien parce que les formes sont multiples et donc on a aussi souvent ce type de témoignage du jean parfait, d'où le regret quand il finit quand même par craquer malgré sa résistance.
C'est ça, et le jean parfait qui peut traverser toutes les modes aussi hein, finalement.
Tout à fait.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Hafiz qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Hafiz.
Oui, bonjour 7 milliards de voisins, bonjour les voisins, les voisines.
Fils, soyez le bienvenu, vous avez 33 ans et chez vous, on dit que le jean est jean même quand il est sale.
Exactement, exactement. Le jean, il perd pas sa valeur, hein, peu importe son état, qu'il soit sale, délavé, déchiré ou peu importe. On lui trouve toujours, en fait, une autre forme de vie.
Oui.
Ah là, bien après.
Oui.
Et moi, en particulier, j'ai une expérience très, très, très profonde avec un jean que
Oui.
j'ai,
Ah oui.
que j'avais, que j'ai toujours. En fait, depuis 2014, en fait, lorsque j'étais vraiment très indépendant, depuis que j'ai commencé à être très indépendant de façon financière, donc je me suis permis de m'offrir un jean autour de 70 000 francs, donc environ 120 euros par là.
Ah oui, quand même.
Ah ouais. Et c'est un jean avec un beau bleu ciel délavé, mais depuis l'usine.
Ouais.
Et tellement ce jean m'a coûté cher, ça veut dire que je l'aimais tellement que je le portais quasiment tout le temps,
Ouais.
avec tout ce qu'il faut en haut, chemise enfilée, un haut de costume ou un polo, en tout cas je le portais, c'était mon favori. Et bah, écoutez, au fil des années, le jean a pris un coup.
Ouais.
Donc aux environs, je crois, de 2018, il a commencé vraiment à se délaver, à perdre de la couleur au niveau des cuisses.
Oui.
Mais par contre, il est toujours resté bien solide, pas déchiré. Ben, alors, pour le rendre encore plus moderne, ben, j'ai pris de l'eau de Javel qui m'a permis de customiser le jean en passant un coup de pinceau avec de l'eau
Oui.
pour rendre carrément la partie des cuisses et l'arrière des fessiers tout blanc. Et il y en avait un dégradé de bleu ciel mélangé à du blanc.
Oui.
Et je ne vous cache pas que le jean, je le trouve plus beau que la première fois où je l'ai acheté.
Ouais. Alors, ça vous fait un
Et...
jean tie and dye, hein, finalement, qui sont des techniques de teinture utilisées sur le continent, d'ailleurs. Oui.
Exactement. Bon, là, la différence, c'est que je l'ai carrément déteint expressément avec du
Oui.
javel. Ce n'est même pas que j'ai rajouté de la peinture.
Oui.
Voilà, donc j'ai joué avec l'effet du javel. Et le jean, il est beau. Il est beau, au point où certains te demandent si tu l'as acheté comme ça, mais non, ils ne peuvent pas comprendre l'histoire.
Ah oui, on vous interpelle encore sur votre jean dont vous connaissez toute la chronologie de l'usure. Ce jean acheté neuf en 2014, mais sinon vous achetez aussi des jeans d'occasion en friperie chez vous, non, Hafiz?
Exactement, déjà, on a un très gros marché de friperie ici où tu peux même trouver des jeans à 500 francs, donc un peu moins d'un euro.
Oui.
Et ce sont parfois des jeans qui ne sont même pas à ta taille ou qui ne sont même pas sur la coupe qu'il
Oui.
faut. Mais
Et
on
puis
a des
vous,
tailleurs
c'est ça, vous faites
spécialisés,
retailler.
exactement, qui font retailler à ta taille et ça te donne l'impression que c'est un jean que tu as acheté 50, 30 euros, quoi.
Ouais, pas mal.
Voilà.
Hafiz, vous êtes un amoureux du jean, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Un message de Zebunissa, qui est à Nyanza, au Rwanda, et qui nous dit: j'ai horreur des jeans, c'est raide, c'est trop épais, je me reconnais pas en jean, j'en ai jamais acheté. Je suis indienne et j'aime porter uniquement des robes et surtout pas en jean. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. On accueille Olivier qui nous appelle de Kinshasa, qui est ingénieur. Bonjour Olivier.
Bonjour. Bonjour.
Olivier, vous avez dit au Standard à Delphine: ma mère a gardé mon jean en taille 4 ans.
Oui,
C'était il y a 40
j'avais
ans.
4 ans, oui, il y a 40 ans exactement. J'étais tout petit, je ne pouvais pas m'imaginer que ma mère m'habillait très souvent en jean. Et à un moment donné, c'est vrai que j'avais pris une certaine taille, le jean ne tenait plus, mais ma mère avait pris soin de le garder et elle me l'a montré plus de 20 ans après. J'étais très 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 surpris, ben, je me suis regardé, je me suis demandé si je tenais là à l'âge de 4 ans. Ben, en tout cas, c'était impressionnant, hein, c'était impressionnant. J'ai demandé à ma mère. Si elle peut retrouver ça dans ses affaires, j'aimerais
Ouais.
bien en tout cas. Si je peux revoir ça me ferait un grand plaisir.
Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on fait surtout avec les chaussures, souvent
Oui,
de garder les premières
c'est
chaussures
vrai,
d'enfant.
c'est vrai. Et ce jean, vous
Oui.
savez où il était fabriqué? Il y avait quelque chose sur l'étiquette?
Si, 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 si. Ma mère m'avait dit que elle avait beaucoup d'amis canadiens et américains, et celui-là, il venait du Canada. Il
D'accord.
venait du Canada et il tient encore, hein, enfin il tenait encore, on va dire, parce que
Oui.
j'ai pas revu ça depuis peu,
Alors
on va dire.
évidemment, un jean made in Canada ou made in USA, maintenant c'est des pièces de collection, hein. C'est
Oui.
devenu quand même assez rare, hein. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelés. Bien sûr, vous continuez de nous téléphoner sur le WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et bien justement, Olivier Affis, qui avait cette relation tellement passionnelle avec votre jean, je vais vous présenter maintenant un collectionneur de jeans. Il s'appelle Eric Maggiori, il a 35 ans, il est journaliste sportif. Quand il était adolescent, il collectionnait les maillots de foot, hein, comme beaucoup. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, il est collectionneur de jeans, pantalons, vestes, salopettes, chapeaux, du bleu foncé au bleu le plus délavé. Tout est en jean. Charlie Dupiot l'a rencontré chez lui en banlieue parisienne, dans sa pièce préférée de la maison.
Alors bah là, on est dans le showroom, dans la partie où je range tout, je collectionne tout, je trie tout. Voilà.
On dirait presque un magasin, tellement c'est bien plié, ouais, bien rangé.
J'aime bien quand c'est bien plié, j'aime bien quand c'est propre. C'est vrai qu'avec ce genre de vêtements que je collectionne, ça peut vite être fouillis. J'aime bien que ça bouge, quoi. J'aime pas que ce soit fixe, quoi. J'ai toujours une pièce ici que je change régulièrement. Souvent, c'est la dernière que j'ai reçue, que je mets là au mur.
Vraiment au mur au-dessus de votre bureau.
Ouais, voilà. Comme ça, je l'ai bien en visu, je peux bien l'analyser.
Et celle qui est au mur actuellement ?
Ouais. Alors, celle qui est au mur actuellement, c'est une chemise de la Navy américaine, donc de la Marine américaine, Première Guerre mondiale. Donc, c'est une chemise qui a un peu plus de 100 ans, qui a 110 ans quasiment. Et c'était, les marins ont été les premiers aux États-Unis à porter des pièces en jean. Et donc, ça, c'est l'une des premières chemises portées par la Marine américaine, par les soldats sur les ponts, quoi.
Et alors, cette chemise, vous l'exposez, est-ce que vous la portez ?
Moi, je porte très peu de pièces vintage. Je dis souvent que c'est comme si j'avais un Picasso chez moi, je vais pas m'amuser à dessiner dessus, quoi. C'est un peu pareil. C'est un peu comme quelqu'un qui finalement mettrait des tableaux au mur. Moi, c'est pas des tableaux, c'est des vestes, quoi.
Cette chemise, elle a des manches longues.
Alors, ouais.
Elle est plutôt bleu foncé.
Avec deux poches plaquées en bas.
Est-ce qu'on a le droit de toucher ?
Bien sûr, c'est même très agréable.
Alors.
Bah après, il y a toutes sortes de jeans. Ce jean-là, il est quand même extrêmement bien conservé. J'en ai toutes sortes qui sont, qui sont beaucoup plus vieux. Qui sont, celui-là, ça, c'est une veste de 1890.
Ah oui. Donc, effectivement, là, elle est assez abîmée.
Là,
hein, il y a des trous.
Abîmée parce qu'elle a été retrouvée dans une ancienne mine, mine d'or du Colorado. Donc, elle est restée quasiment 100 ans dans une mine. Malgré tout, elle est là, quoi. Et un jour, je suis sur un site d'enchères sur Internet, là où j'essaye de me fournir, et je vois qu'est mise en vente une veste. Donc, en l'occurrence, celle-ci. J'arrive à la gagner pour un montant qui, à l'époque, était beaucoup pour moi.
C'était combien ?
C'était quelque chose comme $200 à l'époque, ce qui était beaucoup et ce qui, aujourd'hui, me paraît ridicule pour une veste comme ça. Et donc, du coup, j'entre en contact avec la personne qui la vend. Et je lui dis, mais où tu l'as trouvée ? Et donc, il se présente, il me dit qu'il s'appelle Brian, qu'il habite au Colorado et que lui aussi, en fait, fait ça. Il va chercher dans les anciennes mines des choses. Chercheur de jeans, denim hunter, un chasseur de jeans même. Alors, il n'y en a pas énormément aux États-Unis. Ça doit se compter en dizaines de personnes, je pense, une dizaine de personnes. C'est-à-dire que tu avais les gens qui allaient dans la mine chercher de l'or, et aujourd'hui, tu as les gens qui vont dans la mine chercher les jeans des gens qui cherchaient de l'or. Personne n'aurait imaginé, enfin, certainement pas les mineurs de l'époque, auraient imaginé que leurs jeans auraient aujourd'hui une telle valeur financière et historique. Des vestes qui se chiffrent à 1500, 2000, c'est des montants. Le jean le plus cher jamais vendu, il s'est vendu à $150,000, donc... 130 000 euros peut-être.
Alors on continue d'explorer votre bureau slash musée.
Ouais.
Et on a une étagère et là on voit vraiment des jeans pantalons,
ouais,
notamment.
Tout ça. Alors on va essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Ouais, il y en a beaucoup là.
Et là l'étagère est remplie.
L'étagère est bien remplie. Bon, là.
Hop. Et là les poches vraiment elles sont en charpie.
Bien défoncé, hein. Celui-là, il a pas très bien. Alors en plus, il reste pas grand-chose, quoi. Il y a la forme. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même les petits détails, quoi. Il y a encore la belle étiquette, il y a les boutons, voilà. Mais effectivement, celui-là, on se risquerait pas à le porter, quoi.
Vous avez combien de pièces dans la collection ?
Alors, il y a eu un moment où je crois que j'en ai eu vraiment beaucoup. Je devais être pas loin de 1000 pièces dans la collection. Et là, je me suis dit, c'est trop. Et là, aujourd'hui, je dois en avoir à peu près entre 200 et 250, je dirais, à peu près.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, en fait, vraiment, dans cette matière-là ?
Alors, si ce que j'aime bien dans la matière, c'est qu'elle va souvent garder les stigmates de sa vie. C'était un travailleur qui travaillait dans les champs, parfois on va avoir le derrière qui va être complètement délavé. Et même parfois, ça va avoir pris la forme des bretelles. L'endroit où il y a les bretelles n'est pas délavé, l'endroit où il n'y a pas les bretelles est complètement délavé par le soleil. D'autant plus dans le jean que dans les autres tissus qui parfois ne prennent pas ça.
Et aujourd'hui, le jean est critiqué pour son impact sur l'environnement. On dit que la production d'un jean peut induire la consommation de 7 000 à 10 000 litres d'eau. On dit aussi qu'un jean peut parcourir 65 000 km. Quel regard vous portez là-dessus, vous ?
Moi, je suis tellement focalisé sur justement des jeans qui ont duré 120 ans parce qu'ils étaient faits pour durer et qui sont du coup à l'opposé de toute cette surproduction qu'on a aujourd'hui. C'était d'ailleurs les slogans de pas mal de marques de l'époque, c'était « ça dure, quoi, il faut que ça dure ». Mais même le jean en lui-même, c'est dommage ce qu'on en a fait aujourd'hui, à partir du moment où on a mis d'autres, qu'on l'a mélangé avec de l'élastane, avec d'autres matériaux qui font qu'il est beaucoup moins résistant, beaucoup moins durable. Quelque part, on l'a un peu tué, pas tous, hein, évidemment, il y a encore plein de créateurs, plein de marques qui font des super jeans. Est-ce que un jean d'aujourd'hui peut durer 100 ans ? Je ne suis pas sûr, pas beaucoup en tout cas.
Sophie Lemayeux, vous êtes en direct avec nous. Chasseur de jeans, c'est presque un métier, une activité à part entière pour ces collectionneurs.
Oui, c'est ça. De la part de, enfin, Eric Maggiori rencontre des gens comme des collectionneurs qui, comme il le dit, vont chasser ces jeans. Par exemple, dans les mines, il l'a dit, mais aussi dans l'isolation des anciennes maisons où on utilisait ces anciens vêtements usés, donc un vieux jean d'ouvrier, pour aller rembourrer la toiture et créer un isolant textile.
Écoutez, à bon entendeur, hein, si vous cassez votre cloison, peut-être que vous retrouverez un vieux jean qui peut valoir 100 000 dollars.
Voilà.
Peut-être. Yves Saint-Laurent, au début des années 80, disait « Je n'ai qu'un regret, celui de ne pas avoir inventé le jean ». Alors finalement, qui a vraiment inventé le vêtement qu'on porte tous aujourd'hui ?
Alors, on a une toile qui existe qui s'appelle Jean, donc on pense que le nom vient de Gênes, de la ville de Gênes en Italie. Donc ce serait une contraction, toile de Gênes aurait donné Jean en anglais en fait au départ. On a aussi une toile qu'on appelle de Nîmes, qui vient elle de la ville de Nîmes en France cette fois-ci.
Dans le sud de la France.
Ouais. Ces deux tissus au départ n'étaient pas composés comme aujourd'hui de coton, donc comme on connaît notre jean, mais ils ont fini par les appellations ont fini par se rejoindre. Et au départ, c'est un tissu qu'on va plutôt utiliser pour faire des sacs très résistants, pour faire des voiles de bateau, même ce type d'utilisation. Et finalement, il va passer dans le vêtement au milieu du 19e siècle, même vers la fin du 19e siècle, avec Lévi-Strauss, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui s'installe sur la côte ouest des États-Unis dans les années 1850 et qui vend ce type de bâche, justement, en jean pour les chercheurs d'or. D'où le fait qu'on retrouve des jeans donc, dans les mines d'or. Ce qui va se passer, c'est qu'il vend ses bâches, mais il se rend compte que ce dont ces chercheurs d'or et de ce dont les ouvriers du coin ont besoin, ce sont des vêtements vraiment solides. Et il va transformer ses toiles en pantalons, enfin en overall en fait, des sortes de salopettes avec cette bâche. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'en 1873, il va s'associer avec un tailleur qui s'appelle Jacob Davis, qui va lui proposer de mettre des rivets pour fixer les poches et la braquette plutôt que de simples coutures. Et ces petits rivets en cuivre vont vraiment permettre à ce pantalon de devenir très résistant.
La braquette, mais avant, il y avait les boutons aussi.
Oui, c'est une braquette à boutons, oui, d'ailleurs, à ce moment-là. D'accord, exactement, comme sur le Levi's 501, encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais. Et ce jean, à quel moment il devient vraiment populaire, c'est-à-dire porté par toutes les couches de la population sociale ?
On va dire que c'est dans les années 50. Le jean fait un trajet par différents milieux, puisque c'est donc un vêtement de travail au départ, comme on vient de le dire, qui va être très apprécié de tous les milieux manuels,
les fermiers,
les cow-boys. Voilà. Il va passer effectivement dans l'image du cow-boy aussi, qui fait partie un peu de cet imaginaire du jean. Et c'est dans la première moitié du XXe siècle qu'il va devenir aussi un vêtement de loisir. Parce que justement, imaginons, vous possédez un ranch, vous allez dans votre ranch et pour vous promener, pour ne pas abîmer vos beaux vêtements, vous commencez à porter un jean. Et quelques femmes commencent d'ailleurs à porter des jeans elles aussi, à ce moment-là, dans les années 30 notamment. Ouais. Et c'est seulement dans les années 50 que la jeunesse occidentale, notamment, va s'approprier le jean comme un vêtement qui rentre en rupture avec les vêtements des générations précédentes, un peu comme pour s'opposer à ses parents. Donc ce pantalon va d'abord être adopté par les hommes, les jeunes hommes. Et dans les années 50-60, c'est le moment où les femmes commencent à porter de plus en plus de pantalons, dans les années 60 principalement. Donc le jean va être adopté par la jeunesse masculine puis féminine pour devenir un vrai vêtement unisexe adopté par tous dans ces années 60.
Ouais. Alors, vous le disiez, ce vêtement, c'est un vêtement donc de protestation où on affiche une coolitude, un vêtement de la jeunesse, hein, ouais. Mais qui va devenir finalement après, au contraire, un vêtement de la conformité, hein, puisqu'aujourd'hui il est porté dans toutes les couches de la population.
Exactement.
Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il est encore interdit, notamment dans certains établissements scolaires, hein, pour afficher justement une rigueur. On interdit le jean.
Certains ça peut être le jean,
un code marketing comme un autre, hein, finalement.
Tout à fait. En France, on a des ministres femmes qui se sont fait houspiller parce qu'elles avaient osé porter un jean en Conseil des ministres, alors que ce serait bien vu sur le terrain.
La ministre Duflo,
Cécile Duflo,
de l'écologie. Pharaon nous poste ce message à Cotonou, au Bénin. Pour les femmes, la pratique de la mini-jupe en jean est très récente. Il y a environ 18 ans, nous dit Pharaon, le port du jean par les jeunes filles était considéré dans mon quartier comme un début de dépravation des mœurs. Les parents n'étaient pas du tout d'accord pour que leurs filles portent ces vêtements. Et aujourd'hui, on retrouve dans la ville des adolescentes qui portent des jeans et qui couvrent moins du quart des cuisses. Bon, bah, ça s'appelle un mini-mini short, hein, d'après ce que nous explique
en effet.
Pharaon.
Mais au départ, le jean, c'est un vêtement qui effectivement révèle beaucoup le corps, d'où le fait que ça puisse être considéré comme un élément de dépravation encore très récemment.
Même si au tout début, il était très large, hein, le jean.
Il était assez large, mais finalement, il s'est aussi... Voilà, on est passé sur d'autres formes. Malgré tout, il moule le fessier quand même des femmes dès le départ.
James Dean,
Marilyn Monroe,
ultra ultra sexy donc dans ces films mythiques américains. Rachel nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Rachel.
Emmanuel, bonjour.
Soyez la bienvenue Rachel chez 7 milliards de voisins. Vous nous appelez de Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. Vous êtes vendeuse dans un magasin de vêtements pour enfants et vous adorez travailler, porter une jupe en jean que vous portez au travail.
Oui, j'adore beaucoup les vêtements en jean. Mmh. Au fait, moi, mes vêtements préférés, parmi tous mes vêtements, je préfère les vêtements en jean.
Oui.
J'en ai beaucoup, mais j'ai une jupe que je préfère tellement. Elle est en jean.
Oui.
Elle est de couleur un peu bleu marin,
oui.
Du genre slim.
Oui.
Alors, je l'aime beaucoup.
Donc elle est très serrée, hein, c'est ça?
Pas trop.
Bah, il faut pouvoir marcher, hein, c'est sûr. Avec une jupe en jean, il faut quand même un moment pour pouvoir marcher. Elle est courte ou pas, votre jupe en jean, Rachel?
Non, elle n'est pas trop courte, pas trop longue, mais elle est de taille moyenne.
Oui.
Oui.
Et comment vous vous sentez avec cette jupe, Rachel?
Je me sens quand je la mets, la jupe, je me sens vraiment en valeur.
Ouais.
Et quand je mets les autres vêtements là, je me sens un peu mal. Vous savez, ici chez nous, surtout ici au Congo, les vêtements que les femmes mettent trop souvent, ce sont les vêtements en panne.
Oui.
Mais moi, quand je mets ces vêtements, je ne me sens pas trop à l'aise.
Mm-hmm.
Mais quand je mets les vêtements en jeans, je me sens en relax, je me sens à l'aise. Donc, je me sens en valeur, quoi.
Oui, vous sentez en valeur, vous sentez femme, Rachel. Jupe en jean que vous achetez au marché, hein, des vêtements de seconde main. Hein.
Oui. Non, pas de seconde main.
Non, pas forcément.
Pas de seconde
D'accord.
main. Oui, pas forcément, oui.
Ok. Merci beaucoup, Rachel, de nous avoir appelé pour nous parler de votre jupe en jean, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le jean pantalon.
C'est ça, le jean, ensuite, c'est décliné. Donc déjà, c'est ce que je disais, au départ, c'est plutôt une sorte de salopette pour les ouvriers, avec ces bretelles dont parlait Eric Marjorie dans le reportage, avant de devenir donc un pantalon tel qu'on le connaît. Puis, donc, en se démocratisant, c'est une matière qui va être utilisée pour tout type de vêtements, des jupes, des vestes en jean qui vont aussi pouvoir être customisées. On entendait tout à l'heure l'importance de ce phénomène. Donc, tous les vêtements peuvent être sujets au jean jusqu'à la haute couture aujourd'hui.
Ouais. Ah bah justement, on va en parler avec un fan de jean de luxe. On est en ligne avec Zikondo qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. On décline le jean vraiment dans tous ses états aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Bonjour Zikondo.
Bonjour Emmanuel, la beauté illimitée des radios RFI.
Soyez le bienvenu Zikondo, vous êtes électricien je crois, mais pas seulement, vous avez plein de métiers. Vous habitez à Paris et vous avez dit au Standard, le jean c'est comme une Mercedes.
En tout cas, c'est le moi, ça c'est le mot chapitre, parce que nous le Congolais c'est la sapologie.
Ouais.
Moi je suis Zikondo Mputu, James Bond et le roi de YouTube. Pour moi, le jean c'est comme une Mercedes madame.
Oui, c'est-à-dire.
Le jean c'est comme une voiture Mercedes, c'est indémodable.
Ouais.
Irremplaçable, immortel madame.
Mais alors je sais Zikondo que vous aimez quand même les jeans de marque assez luxueuse, non? Il y a quelques années vous aimiez les jeans Marité Françoise Girbeau, ça date hein, ça déjà.
Merci beaucoup Emmanuel Vadange de RFI. Les jeans je l'ai commencé au Congo parce que mon père mettait les jeans Louis. Au Congo c'était à l'époque les jeans Louis.
Ouais.
Maintenant quand je suis arrivé en France, les données ont changé. On a trouvé les années 80, Marité François Girbeau.
Très important,
ouais. Ouais. Très important.
C'est capital.
Oui, capital. Vous nous disiez, Sophie Lemaillot, c'est vraiment une marque qui fait rentrer le jean dans l'univers du luxe.
Dans l'univers beaucoup du prêt-à-porter de luxe, en effet, avec des techniques pour délaver les jeans à l'avance, alors qu'avant, on le faisait soi-même, quitte à parfois aller dans la mer avec son jean pour que le sel et le sable aident au délavage. Là, c'est déjà pré-délavé par de nouvelles techniques à ce moment-là.
Et aujourd'hui, alors où est-ce que vous en êtes avec les jeans, Zikondo?
Moi, Zikondo, maintenant, les jeans, comme j'ai dit, c'est échangeable. Depuis Marilyn Monroe, les années 50, je vous ai suivi, madame, vous êtes des professionnels. Ça a commencé depuis Marilyn Monroe. Regardez, si vous portez les jeans troués, percés, abîmés, c'est toujours à la page.
Ouais.
Mais mettez un tissu troué. On va se moquer de vous.
Oui.
C'est même à la pêche avec le jean. Même Joe Biden, le président américain, il porte le jean.
C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça veut bien dire aussi qu'on peut porter un jean à tous les âges, hein, parce que Joe Biden n'est pas jeune. Et ça, on ne l'a pas encore dit, c'est vraiment un vêtement. Alors, toutes origines sociales, toute zone géographique et toute génération.
Et toute génération, j'imagine justement depuis ces années 60, où la jeunesse s'est appropriée le jean et finalement ne l'a jamais quitté. Donc c'est cette génération est moins jeune, on va c'est dire ça. Simplement aujourd'hui, mais a gardé cette habitude du jean et donc l'a transposé à d'autres générations. Et donc il ne s'agit plus d'un vêtement de jeunesse, mais bien porté par tous. Et malgré tout, les jeunesses actuelles continuent de se l'approprier.
Zikondo, merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous êtes un fan de jean, vous habitez à Paris, mais vous êtes issu de la sapologie. Vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Vous êtes très nombreux à souhaiter vous exprimer sur le jean. Finalement, tout le monde a une histoire, une relation avec ce vêtement désormais universel. On en parle, 33 7 64 45 51 41. Et on va aussi parler dans quelques instants du désastre écologique, hein, parce que le jean, c'est le vêtement le plus polluant au monde.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Énormément d'auditeurs, de voisins, de voisines qui veulent s'exprimer sur leur jean au 33 7 64 45 51 41. Jeff est à Goma, à l'est de la RDC. Bonjour Jeff.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu Jeff. J'ai l'impression que vous êtes un maniaque du rangement pour vos jeans.
Franchement, vous savez, au Congo, déjà, la mode, c'est une religion.
Mm-hmm.
Et moi, je voue un véritable culte aux jeans,
mm-hmm.
avec des rituels. Donc, la façon de plier mes jeans et de les classer, c'est un peu spécial, quoi.
Ah bon, c'est-à-dire?
Par exemple, lorsque je plie mes jeans, je fais en sorte que... Vous voyez la petite étiquette juste au-dessus de la poche droite?
Oui, bien sûr.
Oui, je fais en sorte toujours que l'étiquette soit visible.
Ah,
ouais. Parce que la marque a son importance.
Ouais. Ouais.
Voilà. Et des fois, lorsque je plie mon pantalon et que je remarque que la petite étiquette n'est pas visible, je déplie directement, je replie ensuite pour que ça soit, pour que ça soit visible. Non, ce sont des rituels comme ça que je fais comme ça sans raison visible ou apparente, mais juste comme ça, j'aime tellement mes jeans que je vais voir l'étiquette.
Vous en avez combien, Jeff?
Alors, au Standard, j'ai dit que j'avais une quinzaine, mais là, je viens de compter, c'est pratiquement une vingtaine. Hein.
Ah oui, une vingtaine de jeans.
Voilà,
d'accord.
Une vingtaine. Depuis, moi, j'achète mes jeans, les originaux, je ne prends pas n'importe quel jean.
Oui.
Donc, c'est autour des 60 dollars et plus. Hein.
Et alors, vous les achetez où? Vous les faites venir? Vous les trouvez sur place à Goma?
Non, c'est sur place à Goma, dans des magasins des luxes, on en trouve. Donc, on peut aussi en trouver dans la friperie, mais là, c'est très rare de trouver des bons jeans.
Ah bon?
Donc, moi, je préfère acheter au magasin. C'est beaucoup plus facile de choisir et puis voilà quoi.
Ouais, vous êtes presque un collectionneur, en tout cas un maniaque du rangement. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Jeff. Ismaïla est à Nouakchott et il nous dit lors d'un mariage, je ne voulais pas m'asseoir de peur de tacher mon jean préféré que je portais. Une serveuse m'a servi du thé. On a renversé sur mon jean. Pour moi, c'était
catastrophe.
La fin du monde. Voilà. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Raimi a 30 ans, il est à Lomé au Togo. Bonjour Raimi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Alors vous travaillez en jean et tout le monde fait ça autour de vous, je crois.
Oui, tout le monde fait ça autour de moi. Tous mes collègues, tout le service commercial dans lequel je bosse, on est tout le temps en jean et c'est à toutes les choses. Bleu, noir, kaki, toutes sortes de jeans.
Et pourquoi? Parce que c'est une ambiance un peu start-up ou qu'est-ce qui fait que tout le monde peut porter un jean?
C'est plutôt l'une des plus grosses sociétés de la place.
Ouais. Mmh.
Mais voilà, il faut dire qu'on le porte beaucoup plus pour son côté pratique.
Mmh.
Voilà, c'est beaucoup plus pratique, on y est beaucoup plus à l'aise. Et vu qu'on bouge beaucoup, souvent en moto, souvent en véhicule,
ouais.
Donc je crois que c'est plutôt pour le côté pratique en fait que cela a été décidé.
Alors vous êtes commercial, comment c'est perçu par vos clients le fait que vous arriviez à un rendez-vous en jean? Je crois même parfois déchiré, avez-vous dit, au standard?
Ah d'accord, non, l'anecdote du jean déchiré, c'était juste pour un après-midi de déjeuner avec tout le service commercial. Donc on a des déjeuners qu'on fait tous les 31 décembre.
Mm-hmm.
Et là, je crois que c'était juste avant le Covid, dans la dernière année, je crois que c'était en 2019. Voilà que l'après-midi du déjeuner du 31 décembre, le directeur commercial et tout le service, je crois marketing, ils ont décidé que tout le monde soit en jean. Mais la particularité, vu qu'on était tout le temps en jean, c'est que pour ce jour, spécialement, le jean sera déchiré.
Ah oui.
Donc voilà, c'était des jeans un peu usés, avec des petits trous ou un côté un peu déchiré, on va dire des jeans très usés.
D'accord.
Voilà, pour le déjeuner. Tout le monde était pareil. Depuis le directeur jusqu'au simple commercial.
Ah oui, d'accord. It's a style, comme on dirait.
Oui, c'est amusant parce qu'au départ, le jean déchiré, c'était la contre-culture punk qui s'est approprié le jean en faisant un objet très destroy, on va dire comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on peut le faire par soi-même, par goût. On le retrouve, on peut acheter des jeans déjà déchirés dans la mode et on les voit aussi à nouveau sur les défilés.
Eh bien, justement, on va en parler de ce fameux processus de fabrication. Là, on va apporter quelques mauvaises nouvelles, mais c'est bien aussi de prendre conscience de ce qu'on porte. Merci beaucoup, Raimi. Restez à l'écoute. Surtout, vous allez avoir des infos sur... Vous allez mieux comprendre comment est fabriqué le jean que vous portez. Jean universel, mixte, intemporel, confortable, ça on l'a dit. C'est le meilleur ami des modeux, des rockers, des patrons branchés. Et évidemment, vous pouvez continuer à nous appeler pour nous parler de votre jean, qu'il soit slim, régular, straight, bootcut. Peu importe les formes, hein, finalement, du moment qu'on ait le denim sur la peau. 2,3 milliards sont vendus chaque année pour un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars. Levi's, qui est toujours le leader du secteur, qui contrôle un peu plus de 5% du marché mondial. Et Stéphanie qui nous pose cette question qu'on va aborder justement à l'État Abidjan. Elle nous dit, certes, le jean, c'est un basique, je suis complètement fan, j'en ai toutes les formes, de toutes les couleurs, mais il paraît que ce sont des vêtements qui polluent. Qu'en pensent vos intervenants? On va donner la parole à Naïla Ajaltouni pour répondre à Stéphanie. Beaucoup d'auditeurs nous ont posé aussi ces mêmes questions. Bonjour Naïla Ajaltouni.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale du collectif éthique sur l'étiquette qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde et pour un meilleur encadrement aussi de l'activité des multinationales. Est-ce que c'est vrai que le jean est le vêtement le plus polluant au monde ?
Oui, c'est vrai que le jean est à la fois un très bel objet de mode, de tendance et puis universel, mais a aussi cette face obscure. D'abord parce qu'il fait partie d'une des industries la plus polluante au monde, d'une manière générale, hein, le textile habillement. Et puis en effet, par sa composition, c'est-à-dire notamment le coton comme fibre principale, et puis sa teinture et son traitement en fait un des objets que les impacts environnementaux les plus importants.
On parle de 7000 à 11000 litres d'eau pour fabriquer un jean, ça serait l'équivalent d'environ 285 douches. Comment est-ce possible alors que le processus est tellement industrialisé en série ?
Parce qu'en fait, la matière principale qui rentre dans la composition d'un jean, c'est le coton. Et en fait, lorsqu'on parle jean, on pense, c'est vrai, souvent confection, fabrication, mais on oublie, ce qui est bien normal, l'ensemble de la chaîne de valeur, qui est un peu la même pour tous les vêtements. C'est qu'avant tout, il faut cultiver la fibre de coton, la graine, et que c'est cette culture qui est une des plus gourmandes. Elle est responsable de 25% de l'utilisation des pesticides dans le monde, 3 ou 4e, en effet, consommatrice en eau en matière de culture dans le monde, et qu'ensuite, il y a la production de l'indigo, pour teindre, pour donner cette couleur si emblématique, extrêmement aussi gourmande en eau. Et enfin, on va avoir un problème aussi au recyclage, avec notamment l'émergence, la multiplication de la consommation, de la production de jeans, avec le modèle de la fast fashion qui va de plus en plus empêcher son traitement et son recyclage.
Ouais. Alors que c'était un vêtement à la base, au contraire, ultra, ultra solide et durable. C'est quand même un paradoxe.
Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très emblématique, ce jean qui était au départ un vêtement de travail. C'est vrai que Lévis a révolutionné avec l'invention des dérivés, justement, cet outil de travail qui allait être solide, tenir au corps, protéger le travailleur. L'émergence de la fast fashion, c'est-à-dire cette accélération du rythme des collections dans une mode beaucoup plus de plus piètre qualité, l'a finalement transformé juste en un objet de surconsommation et sorti aussi de l'utilisation uniquement du coton pour le mélanger de multiples fibres et introduire notamment la question de l'élastane, du stretch qui va donner cet effet stretch qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment recycler ce vêtement parce que soit la matière est trop dégradée, soit on ne sait pas, on n'a pas les procédés techniques pour diviser autant de fibres qui entrent dans la composition d'un jean.
Mais H&M a lancé, donc, qui est quand même l'acteur numéro un du prêt-à-porter industriel, a lancé son premier jean 100% recyclé. C'est possible ou pas ?
C'est possible qu'il y ait eu des prototypes. Il faudrait en fait, ce qu'on demande nous beaucoup à H&M, c'est d'expliquer très concrètement ce qu'il appelle par jean 100% recyclé et surtout la part de ces jeans recyclés dans la masse des vêtements qu'il produit, qu'il jette, qu'il ne peut pas recycler. Je pense que c'est ça qui est important de savoir pour le consommateur. On peut recycler, mais dans le monde, on ne recycle que 15 à 20% des textiles. Donc 75 à 80 ne sont pas recyclables. Alors, c'est tout à fait possible que H&M ait réussi à faire un jean recyclé. Et donc, il faut en effet qu'il nous explique exactement comment. Et surtout, l'idée, c'est de l'étendre et de ne pas se cacher derrière un produit exemplaire, mais que ce soit désormais un modèle économique.
Mais vous, Neila Jaltouni, en tant que déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette, qu'est-ce que vous demandez aux multinationales ? Qu'est-ce que vous exigez pour que le jean cesse d'être le vêtement le plus polluant au monde ?
En fait, on va s'intéresser surtout au modèle. Ce n'est pas tant le jean qu'on apprécie aussi, comme pour les valeurs un peu universelles qu'il a représentées. C'est plus la question du modèle économique. Ce qu'il faut enrayer aujourd'hui, c'est des modèles qui créent en volume, à bas coût, pour être rentables. C'est vraiment ça qui a exacerbé les impacts sociaux et environnementaux, parce que le jean, ce sont aussi des femmes qui cousent au Bangladesh 12 heures par jour, 6 jours sur 7, pour 80 $ par mois, ce qui est dérisoire, ces vêtements. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est enrayer cela. Il faut revenir à des modèles durables, de meilleure qualité. Il faut repenser la construction du prix et des marges, bien évidemment, pour qu'on ait en fait à nouveau des vêtements solides, de bonne qualité et donc recyclables. Et cesser de survendre et de surproduire à des fins de rentabilité économique. Donc plus que le jean, c'est le modèle économique de fast fashion que l'on cherche à réguler. Et pour ça, il faut en effet passer par des lois.
Alors évidemment, évidemment, il y a la loi sur le devoir de vigilance sur les multinationales, mais qui est une loi qui s'applique en France. Hein. Est-ce que dans d'autres pays, vous obtenez des avancées, vous et les autres ONG qui travaillaient sur la question textile, qui est le secteur industriel le plus polluant au monde, vous arrivez à faire supprimer des procédés, je pense notamment aux teintures, aux sablages, pour que les travailleurs, leur santé soit moins en danger?
Alors c'est vrai que c'est une question tout à fait importante que vous soulevez, c'est celle des conditions de travail aussi dans les pays. Alors il y a une mesure assez importante qui a été obtenue en 2010, c'est l'interdiction par exemple de la technique du sablage pour le jean en Turquie. Et ça, ça a vraiment été une mobilisation de la société civile locale, des syndicats en Turquie, mais aussi des campagnes d'opinion que nous avons menées ici auprès des marques avec l'appui des consommateurs et qui a abouti à ce que la Turquie passe une réglementation qui interdit le sablage des jeans parce qu'il était fait dans des conditions déplorables, sans protection des travailleurs, qui contractaient la silicose et mouraient en quelques mois, cette maladie terrible. Donc il faut en effet passer ce type de réglementation. Et pour ça, il faut permettre aux travailleurs et aux organisations de défense des travailleurs sur place, dans les pays de production, d'être en capacité de défendre ces lois, parce qu'en tant qu'ONG française, évidemment, on n'a pas le poids ni la légitimité pour intervenir directement au sein de ces pays. En revanche, on a une responsabilité à faire que l'Union européenne soit un lieu aussi qui va interdire l'importation sur son sol de produits ayant été fabriqués grâce, si je puis dire, à l'indignité humaine, l'exploitation des personnes et la dégradation de l'environnement. Et c'est ce que l'on fait actuellement en essayant d'avoir une directive européenne sur le devoir de vigilance qui va réglementer aussi le modèle économique des multinationales européennes pour qu'elles ne profitent pas en fait de ces déficits de législation dans les pays de fabrication.
Alors on parle de 7 pays pour un parcours de 65 000 km pour un seul jean. Hein. Le coton peut provenir d'Inde, de Chine ou des États-Unis, la teinture bleue d'Allemagne, les rivets en zinc d'Australie, la fermeture éclair du Japon, le pantalon va être cousu en Tunisie ou ailleurs, la toile est délavée avec des pierres en Turquie. Ce qui veut dire que quand on achète par exemple un jean made in France, est-ce que vous par exemple en tant que militante, Neila Jaltouni, vous achetez des jeans made in France, est-ce que ça a du sens ou pas?
Oui, bien sûr, ça a du sens. Et puis, je pense surtout, moi, personnellement, je suis évidemment, comme tout le monde, limitée par l'offre. C'est surtout cesser d'acheter beaucoup de vêtements. Hein. La première chose, je pense, c'est acheter, encore une fois, des vêtements qui durent, de la fibre de bonne qualité, qui durent pour ne pas, utiliser des vêtements qui vont se dégrader en 5-6 semaines, parfois, pour les plus faibles qualités. Le Made in France, ça a un sens. Alors, évidemment, on n'est pas encore capable, on ne peut pas
sachant que les cultiver toiles, du coton. Les toiles sont importées quand même, en général.
Exactement. On ne peut pas cultiver de coton en France, mais il commence à y avoir des réflexions autour du lin, par exemple. Mm. Autour du lin et d'autres fibres. Et puis, en effet, voilà, il y a des essais pour cultiver de coton. Mais enfin, entre ces essais et remplacer la fast fashion, évidemment, il va y avoir des années de gâchis, je dirais. Et le Made in France a l'intérêt d'arriver à réduire une grande partie de la chaîne de valeur en arrivant à localiser en France la confection, le traitement et en limitant le transport. On a aujourd'hui une fenêtre, en effet, morte sur l'origine de la fibre. Mais voilà, le lin, par exemple, fait aussi partie, ou le chanvre des matières qui sont explorées pour remplacer le coton.
Oui, alors reste à savoir si ça s'appellera toujours un jean. Hein. On peut se poser la question, quel est l'avenir du jean? On a 80% des jeans qui sont importés en Europe, qui sont fabriqués dans 4 pays, Bangladesh, Turquie, Chine, Pakistan. Le Japon aussi, on ne l'a pas dit, mais est un énorme marché du jean. Les Japonais adorent porter du jean.
Oui, et pour le coup, des jeans assez luxueux. Ouais. On appelle ça des jeans selvedge, qui sont réputés dans le monde entier pour être d'excellente qualité.
Alors, l'avenir du jean, c'est à vous que je pose la question. Sophie Lemayeux, est-ce que vous pensez que le jean va se transformer, se révolutionner, puisque maintenant on propose des processus beaucoup plus propres, avec tout un tas d'indications? Est-ce qu'on peut se fier à ces indications?
Comme le disait Naïla, ça va sans doute prendre du temps. Mais on est malgré tout dans une nouvelle volonté de la part des consommateurs qui se rendent bien compte qu'on essaye de créer une envie perpétuel d'acheter de nouveaux vêtements et qui veulent commencer à freiner ce phénomène et à y résister. Et c'est par le biais des consommateurs qui, eux, vont changer leur manière d'acheter qu'on commence à voir une différence. Et donc oui, je pense que le jean a évidemment encore un avenir très long devant lui, mais peut-être on peut espérer de manière plus raisonnée.
Voilà, il va falloir apprendre à décrypter les étiquettes. Merci beaucoup à toutes les deux. Sophie Lemaillot, historienne de la mode, merci. Enseignante en histoire de la mode à l'École du Louvre. Vous avez co-publié « Histoire des modes et du vêtement » chez Textuel. Et merci à vous, Neila Ajaltouni, délégué général du collectif Éthique sur l'étiquette, qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde et surtout pour un meilleur encadrement de l'activité des multinationales. Et on entendait à quel point vous souhaitez faire pression sur l'Union européenne. On terminera avec un message de Gildas, qui a 38 ans, qui est à Libreville au Gabon. Il nous dit mon jean préféré, c'est un Levi Strauss. Et oui, on revient aux origines, ajusté, qui dessine les formes. Ça fait cow-boy, ça fait ressortir la virilité de l'homme. J'ai regretté un jean car c'est le premier que j'ai acheté moi-même. On a tous une histoire à raconter avec nos jeans. Et d'ailleurs, on peut, si ça vous intéresse, visiter virtuellement l'exposition Jeans de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour l'instant, une exposition virtuelle. Mais du coup, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez aller sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Comment ce vêtement de travail de la fin du 19e siècle a fini par être adopté sur tous les continents jusqu'à devenir aujourd'hui un symbole de la mondialisation et de ses excès, on l'entendait. Allez, on se quitte avec Princesse Nokia et dans quelques instants, le journal.
'95, I'ma listen to Sublime. Drink that 40 ounce of freedom to the day that I die. Gonna listen me Selena, drink a 40 and cry. Gonna roll me up a Beamer, I'ma go and get high. While it's 1995, getting fly to pass the time. I'ma slip up from behind while he going by that wine. We ain't looking at the time, don't nobody got a phone. We gon' kick it in the park and we ain't never going home. Cully coking home alone while I'm smoking on the bone. New York City is my throne and I love to call it home. Saggy denim, 1995, I be rolling them Elba on the side with my Tommy boxes on my Calvin Klein. Ooh, baby, enough to get fly. I speak that Guala Guala, that peso pounded dollar, that Uchi Walla Walla, Puerto Rican mama mama. Come holla at your Guala, they hootin' and they holla. That Plata, no banana, roll my weed in my Fanta. I speak that Guala Guala, that Spanish Uchi mama, that Puerto Rican drama, that fuck you pay me nana. I care about my karma, I got a code of honor. I smoke the bestest weed, shout out my plucky farmer. I speak that mira mira, that mira oye linda, that vini kimihita, tu eres mi chiquita. I grew up in the projects with nasty stairs and halls. The ghetto has no censor, and I done seen it all. That's why I see your cars, and I see your flaws. But I see that you a G, and yeah, you be a boss. Hood chick with some rave tricks, you can eat it all. Could spit me, call my man chick, know she need a dawn. So I'ma leave alone, ice cream in the cone. Leave her in the LLB with baggy jeans is on. And you know me, I be in Leeds with some sneakers on. Preferably clouds when the rest of them slide. Just know, destiny rides by, me blowing. Sets in the sky to be acceptably high, one in the same place. Took a minute to find you. I'm trying, but you try and say my time's up. And I've lied enough, I haven't tried enough. So I gotta say some shit for this rhyme's up. That's you, my love, my thug, my drug. When I'm gone, make my mind up.
Saggy denim, 1995, I be rolling them L.O. on the side with my Tommy boxes on my Calvin Klein. Ooh, baby, and love to get fly. Red and blue, yellow and white too. 1992, campus, we wrote crew. Windbreakers with my 40 acres, chillin' like the Quakers. I wrote through with mad papers, went from Philly, Dutch's papers.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur la confiance en soi chez les femmes. Elles se demandent plus souvent que les hommes si elles sont à la hauteur. Alors quels sont les mécanismes de la confiance en soi? On en parle demain chez 7 milliards de voisins, avec vous bien sûr, les voisines.
7 milliards de voisins, c'est fini.
C'est pas du vent.